7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. L'école à la radio, 12e semaine avec l'enseignante Sarah Vauquier. Aujourd'hui et cette semaine, les leçons ressemblent aux grandes vacances, avec des apprentissages, bien sûr, en bonus. Bonjour Sarah.
Bonjour Emmanuel.
On est très heureux de vous retrouver dans l'émission et vous allez nous accompagner toute cette semaine, accompagner surtout les enfants. Et aujourd'hui, on va s'entraîner à s'orienter dans l'espace, même pour les plus jeunes d'ailleurs au préscolaire, parce que c'est important d'avoir la notion du chemin que l'on parcourt dans une habitation.
Tout à fait, c'est ça. En fait, ça c'est aussi une capacité qui s'est perdue un peu aujourd'hui avec les parents qui souvent conduisent les enfants en voiture à l'école ou les enfants prennent les bus, ils ne marchent plus comme avant. Voilà.
Exactement, donc on ne sait plus où on va finalement sur la planète. Vous allez aussi nous expliquer, Sarah, comment fabriquer une boussole et il y a pas mal de chefs d'État aussi qui pourraient en avoir besoin.
Tout à fait, ça va les aider peut-être à prendre des décisions.
L'objectif, donc, c'est vraiment se repérer dans l'espace, mais au-delà de ça, ça touche des savoirs scolaires, Sarah ?
Déjà ça c'est un savoir scolaire en géographie chez nous, en fait, de pouvoir se repérer dans l'espace, de pratiquer différents langages en géographie. On apprend aussi à dessiner un plan et puis à décrire en fait un chemin qu'on parcourt ou qu'est-ce qui est dessiné sur un plan par oral et par écrit.
Et il faut du matériel pour cette leçon aujourd'hui. Un crayon, une feuille, une gomme, ça c'est comme d'habitude. Et pour les 8-10 ans,
un peu plus. Donc, on va fabriquer une boussole. Et pour ça, vous avez besoin d'un bol avec de l'eau ou un liquide dedans, d'un petit bout de métal. Ça peut être un tout petit morceau de fil de fer, une aiguille, une trombone. Et vous avez besoin aussi d'un aimant ou d'un couteau. Et dernière chose, d'une petite feuille. Donc ça, vous pouvez même déchirer de votre grande feuille que vous avez déjà devant vous.
Sarah Vauquier, pour ceux qui vous découvriraient dans l'école à la radio, je précise que vous êtes une enseignante un peu atypique. Vous avez publié un livre. Vous pouvez nous redonner les références ?
Tout à fait. Ça s'appelle L'école à ciel ouvert. C'est écrit par trois auteurs, dont moi, par la Fondation Sylviva. Et puis, c'est sorti aux éditions La Salamandre.
Voilà, L'école à ciel ouvert. Et c'est vrai que vous aimez bien aussi faire de l'orthographe sur les troncs d'arbres. Mais ça, c'est un autre programme. En fin d'émission, Sarah, je continue moi le programme de ce jour. On aura une femme, une héroïne mal connue du continent africain, avec la chronique de Sylvia Serbin. Aujourd'hui, Sogolan Kedjou, la bossue. C'est la mère du fondateur de l'Empire Mandingue au XIIIe siècle, donc l'actuel Mali, Soundiata Keïta. Vos questions évidemment et vos commentaires, vous avez la parole sur WhatsApp au 33 1 84 22 71 71. Et puis l'équipe qui réalise chaque jour cette émission, Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Nicolas Benita et moi-même.
7 milliards de voisins.
On est tout proches.
On est ensemble.
Ça reste entre nous.
7 milliards de voisins. Et la planète se parle.
Bonjour RFI, je suis Dedane Soubo Exaucé, élève en 5e au collège Bartimé, 9e arrondissement en N'Djamena. Sans arbres, nous aurons des problèmes à avoir de l'oxygène pour réussir la respiration. J'aime votre émission École à la radio. Merci RFI.
Bonjour les voisins et les voisines, je m'appelle Marianne, je suis de Dakar, au Sénégal, je suis en classe de 5e. Je voulais juste répondre à la question, comment serait un monde sans arbres ? Pour moi, la réponse est assez évidente. On sait tous que les arbres font partie des producteurs représentant le maillon le plus important de la chaîne alimentaire. Sans arbres, il n'y aurait plus d'animaux, détruisant ainsi tout l'écosystème. Sans arbres, plus de papier fait avec du bois, plus de bois de chauffage, on aura beaucoup, beaucoup moins d'eau et beaucoup, beaucoup moins d'oxygène. Les gaz à effet de serre vont se multiplier à une vitesse fulgurante, on n'aura plus de fruits, on n'aura même plus de médicaments parce que beaucoup de médicaments sont faits à base de fruits, à base des écorces, des racines ou des feuilles d'arbres. Et bien sans arbres, plus de vie. Merci et bonne journée.
Bonjour, je suis lauréate de Madagascar, j'ai 11 ans et j'adore écouter 7 milliards de voisins avec les astuces, le cours de mathématiques et les histoires.
J'ai appris le plus grand arbre du monde et comment mesurer la circonférence en utilisant la longueur des deux bras d'un enfant qui est de 1 mètre.
Et j'aimerais bien avoir quelques cours de physique en même temps. Merci.
Et merci à Exaucé, 13 ans, Marianne, 13 ans, Lauréa, 11 ans. Vous avez vu tout ce qu'ils ont retenu de votre leçon sur les arbres.
C'est incroyable, hein, c'est le récit de pourquoi on utilise les arbres, pourquoi les arbres sont utiles. Oui, il est très compliqué.
Exactement, vous leur avez ouvert les yeux et vous avez développé leur curiosité. Et je me souviens que dans cette leçon, c'était pas seulement sur l'utilité des arbres, parce qu'on a fait aussi quand même quelques calculs mathématiques.
Hein. Tout à fait, ouais, par rapport à la respiration, à l'oxygène et tout ça. Mmh.
Exactement. Un voisin aussi à Dakar, à propos de la leçon d'aujourd'hui que vous allez nous faire, Sarah, sur l'orientation, il dit que ça sera très instructif parce que les Africains et Sénégalais en particulier ont un réel problème pour se situer. On confond gauche et droite. Alors moi, je ne vois pas pourquoi un tel préjugé. À mon avis, c'est assez répandu dans le monde entier de confondre la droite et la gauche. Hein. Et alors encore pire pour les gauchers, hein, ça je peux en témoigner. Mais c'est vrai que c'est quelque chose finalement un peu négligé par les enseignants de bien vérifier que les enfants savent distinguer leur gauche et leur droite, alors que c'est quand même très utile dans la vie.
Tout à fait, mais bon, c'est de travailler avec les jeunes enfants, mais après on oublie un petit peu.
Eh bien oui, exactement. Joséphine Ambour au Sénégal, étudiante en Master 2 en gestion des ressources humaines. Juste pour vous dire que j'adore votre émission, vraiment intéressante. Héloïse m'a tellement fait rire avec la façon dont elle imitait le coq vaniteux. Vous pouvez réécouter l'émission de vendredi dernier sur le site RFI.fr à la page des 7 milliards et bien sûr réécouter en podcast sur les plateformes de téléchargement. Amadou Anouakchott, il a de l'humour. Corona est un petit rigolo. On nous disait pas de téléphone à l'école et maintenant c'est l'école qui est dans le téléphone. Eh ouais, bien vu. Allez, vous continuez de poster au 33 1 84 22 71 71.
Milliards de voisins.
L'école à la radio.
Sarah Vauquier, nous démarrons, c'est ludique, mais on apprend toujours avec vous. On commence donc s'orienter dans l'espace. Une première activité pour les plus jeunes, vraiment accessible pour les tout petits au préscolaire.
Déjà, les 6-7 ans aussi et les 8-10 ans, si vous avez trouvé tout votre matériel qu'il faut, vous pouvez bien sûr aussi participer. Mais on commence en fait dans la salle où on est. On commence par chercher et trouver des choses qui se trouvent dans votre salle. Et ça va ainsi, je vais vous dire un élément. Si cet élément se trouve dans votre salle, vous allez le toucher, puis vous revenez à l'endroit du départ. C'est très simple. Vous êtes prêts?
Oui. Alors moi, je ne pourrais pas beaucoup bouger, sinon vous ne m'entendrez plus, mais je vais essayer de...
Moi, je vais bouger. Voilà. Vous allez peut-être l'entendre. Donc, la première chose à chercher, le premier élément à trouver, c'est un pied. Ça peut être un pied de table, un pied de chaise, le pied de votre maman, de votre chat. Allez-y, vous pouvez chercher un pied, le toucher, puis revenir là où vous êtes maintenant. C'est parti.
Bon, bah pour moi, c'est facile. Hein. C'est directement au bout de mon bras gauche, justement. C'est le pied de la table du studio de RFI, d'où nous parlons en direct.
Très bien. Ben moi, je suis allée un peu plus loin. J'ai vraiment traversé toute la salle pour toucher le pied de ma chaise de bureau qui se trouve de l'autre côté de la salle. Et puis maintenant, en fait, vous écrivez aussi le chemin que vous avez fait pour arriver à votre pied. Donc si vous avez maman, papa, frère et sœur à côté, vous pouvez leur décrire maintenant votre chemin que vous avez fait pour toucher le pied. Allez-y.
C'est-à-dire, par exemple, les meubles que l'on a contournés
Oui. Si je suis allée à droite ou à gauche, au-dessous, au-dessus, etc.
D'accord. Et il faut avoir pris le chemin le plus direct ou pas?
Oh non, pas du tout. Hein. Là, vous êtes vraiment libre de prendre le chemin qui vous fait plaisir de prendre. D'ailleurs, c'est même plus intéressant pour la description du chemin si vous ne prenez pas le chemin le plus rapide.
D'accord. Donc, on décrit le chemin pour traverser une pièce, l'habitation où vous vous trouvez, ou la cour, hein, pour rejoindre l'élément, le pied que vous a demandé de toucher, Sarah.
C'est ça, exactement. Bon, je crois qu'on peut passer à un deuxième élément à trouver. Vous êtes prêts?
On est prêts.
Alors, le deuxième élément, c'est un coin. Ça peut être le coin de la salle, un coin de l'armoire. Allez-y, touchez un coin et revenez à votre place.
Alors, un coin, ça peut être aussi donc un angle, hein, maintenant qu'on est très fort en mathématiques.
Tout à fait,
ouais. D'accord. Mais c'est
moi,
pas.
J'ai déjà touché un coin.
C'est pas les enfants, vous allez au coin, vous êtes punis. Hein, non, parce que
non,
chez vous, on n'est jamais
puni.
Vous
allez toucher un coin et puis vous revenez là où vous êtes.
D'accord.
Moi, j'ai dû passer à côté du piano. Hein. Le piano était à ma gauche. Je suis allée dans le coin de la salle et je suis revenue. Maintenant, à vous de décrire le chemin que vous avez dû prendre pour toucher un coin.
À droite, à gauche, tout droit. Qu'est-ce que vous avez dû contourner comme obstacle?
Oui.
Voilà.
Ben, je crois que c'est bon, hein, vous avez pu dire. Est-ce qu'on fait un dernier?
Allez, on en fait un dernier.
Allez. Ben, ça demande peut-être un peu de courage. Le dernier élément à toucher, c'est une toile d'araignée.
Oh bah attendez, ça, il n'y a pas ça partout, hein, une toile d'araignée.
Ah bah non, c'est parti. Hein. Allez chercher déjà si vous en trouvez une. Et peut-être vous devrez faire beaucoup de chemin pour chercher une
et
toile
oui,
d'araignée.
Peut-être qu'il faudra chercher dans toute votre habitation. Peut-être qu'il n'y en
là,
aura pas.
Une derrière le radiateur, il y en a une.
Ah mais oui, mais parce que vous êtes à la campagne, Sarah.
Oui, c'est ça, parce oui, que... tout à fait. Et puis on ne nettoie pas très bien notre maison, c'est peut-être ça. On ne nettoie pas derrière les radiateurs chaque semaine. Hein. Donc pour ça, c'était compliqué. J'ai dû aller, en fait, je me suis tournée, je suis allée derrière de l'autre côté. Après, j'ai tourné à droite, j'ai encore tourné à droite. Je suis revenue à ma place. Et puis à gauche, j'ai vu le radiateur derrière et j'ai trouvé ma toile d'araignée. Et vous?
Alors, vous avez compris le principe, les enfants. Hein. C'est vraiment, même si vous ne trouvez pas cette fameuse toile d'araignée là où vous vous trouvez, c'est de pouvoir décrire un chemin.
C'est exactement ça. Et puis l'idée, c'est qu'après l'émission, vous pouvez faire cet exercice dehors, si possible à deux, hein, si vous avez un frère, une sœur qui veut faire avec vous. Et puis, ça va ainsi. Une personne décrit un endroit ou un élément qu'on peut trouver dehors, et puis l'autre va le chercher, et puis décrit le chemin qu'il a fait pour le trouver. Avec les élèves, parfois, moi, je leur donne des photos que j'ai prises à certains endroits dans la nature et ils doivent retrouver cette photo dehors. Donc ça, c'est une autre possibilité. Si vous avez un smartphone pour photographier ou faites un petit dessin de quelque chose, vous le donnez à quelqu'un d'autre et lui, il va trouver cet élément et cet endroit.
Sans indication, sans plan, sans direction, là.
Oui, tout à fait. Alors, tout simplement en le trouvant et puis après en décrivant le chemin que vous avez pris de votre endroit de départ jusqu'à cet endroit que vous avez dû trouver dans la nature.
Alors, ça nous amène justement à la deuxième activité qui est d'apprendre
ça, oui. Alors, en fait,
à
si
dessiner.
Si vous voulez un peu plus complexe, et puis bien sûr aussi les 8-10 ans maintenant, hein, vous pouvez dessiner un plan de votre jardin, de votre cour ou de votre maison.
Ouais, mais à l'heure du GPS, est-ce que c'est important de savoir s'orienter à partir d'un plan finalement?
Mais bien sûr, on n'a pas toujours un GPS sur soi. Déjà, il n'y a pas tout le monde qui a un smartphone. Ouais. Moi, j'en ai pas, par exemple. Il faut que je m'oriente. Et puis, en général, c'est toujours bien. Mais il y a des gens, j'ai lu des articles, des gens qui n'ont plus trouvé leur voiture garée en ville parce qu'ils se sont perdus et ils n'avaient pas les notions pour se repérer. Donc, je crois, à tout âge, c'est utile de pouvoir dessiner des plans, pouvoir expliquer des directions où je trouve la boulangerie dans cette ville. Par exemple, un touriste vous demande, vous devrez expliquer un chemin. Et clairement,
ça, c'est vrai. Et on,
donc, je crois
et
que c'est vraiment utile dans la vie du quotidien.
Et on remarque que de plus en plus de gens ont du mal à expliquer où se trouve tel ou tel endroit, d'ailleurs, hein, parce qu'eux-mêmes ne savent pas très bien.
Aussi,
alors, on le fabrique, ce plan. Alors, comment on s'y prend?
Ce plan, ouais, voilà. Donc, vous dessinez, après l'émission, sur votre feuille, un plan de votre cour, du jardin, de la maison, un endroit où vous voulez, en fait, et vous mettez des croix sur votre plan. Et l'idée, c'est qu'une autre personne doit chercher ce qui se trouve aux endroits avec les croix. Et puis, cette personne doit vous dire ce qu'elle a trouvé et elle va l'écrire dans votre plan.
Alors, ça peut être une place dans la maison, ça peut être la place d'un meuble, tout simplement, ou ça peut être à plus grande échelle.
Votre lit ou votre coussin dans la chambre, ça peut être la plaque où vous cuisinez, ça peut être votre poupée préférée qui est placée au bord de la fenêtre, etc.
Et bien sûr, et pour ça, pour que la personne trouve, il faut que votre plan soit de bonne qualité et soit
proche. Tout à fait,
hein.
Sinon ça va être trop difficile. vrai.
De la réalité, ouais.
Oui, tout à fait.
Et à plus grande échelle alors maintenant, puisqu'on est en train de...
Et à plus grande échelle, ben voilà, peut-être même que vous arrivez à noter les points cardinaux sur votre plan. Hein. Qu'est-ce que c'est les points cardinaux? Ce sont des points à l'horizon qui vous aident à vous orienter. L'horizon, c'est, ben, si vous regardez par la fenêtre, c'est un peu ce que vous voyez tout derrière. Hein. Ça, c'est l'horizon. Et puis, sur un plan, on indique souvent quatre directions. L'est, l'ouest, le nord et le sud. Et si vous regardez par la fenêtre, peut-être vous allez trouver l'endroit où est le soleil. Chez moi, je le vois presque au-dessus de moi. Maintenant, ça va. Avant, il y avait des nuages. On ne le voit pas tout de suite, ouais, toujours. Hein. Est-ce que vous savez où il se lève et où il se couche chez vous, le soleil?
Alors, c'est pour les enfants qui vivent dans des grandes villes avec de grands immeubles, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on voit moins le soleil.
Imaginez-vous, peut-être le matin, quand vous vous levez, vous allez à l'école, vous allez dehors, où vous voyez de la lumière à cette heure-ci, hein, où vous voyez le soleil qui monte. Alors, chez moi, c'est derrière la petite forêt que je vois à ma gauche, si je regarde par ma fenêtre.
C'est alors, le soleil se lève à l'est. Pour les enfants qui sont de culture et de confession musulmane, ils le savent, hein, bien sûr,
oui, puisque j'ai appris ça, hein.
On prie vers l'est, vers la Mecque. Et pour les autres, effectivement, il faut avoir développé un peu son sens de l'observation. L'est, donc, là où se lève le soleil, hein, et d'ailleurs dans d'autres cultures, d'autres confessions, c'est aussi un endroit important, forcément, puisque c'est là que se lève le soleil. Et donc, à l'opposé, on trouve l'ouest, et c'est là où se couche le soleil.
Exactement, ouais. C'est là où se couche le soleil. Chez moi, c'est derrière le village. Quand je le regarde dans l'autre direction, à ma droite, derrière le village, sur la colline, il y a le soleil qui se couche.
Alors,
et maintenant, on va essayer...
Les enfants, vous essayez bien de repérer ces endroits-là dans votre environnement proche et de pouvoir le noter.
Oui, et puis on essaye même maintenant de dessiner avec notre main le trajet que fait le soleil du matin au soir chez vous. Donc essayez de repérer le lieu où il se lève, vous pouvez pointer avec votre doigt. Si vous le voyez maintenant, hein, vous allez là où il est, et puis vous descendez à l'ouest, là où il se couche.
Ça veut dire que là, si j'ai mon doigt pointé, il y a un moment donné où mon doigt va passer au-dessus de ma tête.
C'est ça, hein. Mon soleil il est au-dessus de ma tête, hein. Il est au plein sud. Hein.
C'est ça, au zénith donc. Et puis, mon doigt va redescendre et on arrive à l'ouest.
Oui, tout à fait, c'est ça. Donc, on a déjà touché trois points cardinaux, est-ouest, et c'est moi vu que c'est midi ici, le sud, le soleil il est au sud pour l'instant. Et puis maintenant, on va noter sur la feuille un E pour est à la gauche. Ça, c'est là où le soleil se lève. Vous pouvez mettre un E maintenant.
Un E.
Ouais, il faut connaître la gauche. Hein.
Ouais.
Et puis sur la droite de votre feuille, notez un O pour ouest.
C'est l'inverse, hein, plutôt.
Non, c'est là où le soleil se couche.
Ouais, mais c'est plutôt l'inverse, hein, sur une carte, on est d'accord.
Sur une carte, oui, mais on va faire un autre exercice.
Ah,
là,
d'accord,
hein. Et puis,
d'accord.
Là, en
je m'inquiétais. Ouais.
Tout en haut de votre feuille se trouve le sud. Là, vous pouvez écrire un S. C'est là où je vois le soleil maintenant chez moi.
D'accord.
Et tout en bas, on va écrire un N pour le nord. Le nord, maintenant, il est derrière mon dos. Hein. Et puis, on a fait ça parce qu'après l'émission, vous allez dessiner sur votre feuille le trajet que fait le soleil chez vous pendant une journée.
Ah,
pour ça, hein, il faut dessiner d'abord le paysage. Hein, à gauche, le paysage que vous voyez quand le soleil se lève, ça peut être des immeubles, ça peut être la forêt comme chez moi. Et puis, tout l'horizon, hein, tout ce que vous voyez à l'horizon, jusqu'au paysage où le soleil se couche à l'ouest. Et puis après, vous essayez de dessiner le trajet du soleil sur votre dessin.
Alors, vous pouvez déjà commencer à faire une première esquisse et bien sûr, ensuite, vous ferez un plus beau dessin.
Oui,
pour mieux repérer et puis un dessin plus fini avec tous les détails.
Oui, tout à fait. Et puis, si vous dessinez le trajet du soleil, hein, au moment où vous le faites, vous regardez dehors, vous pouvez dessiner le soleil exactement où vous le voyez et vous pouvez noter l'heure qu'il est maintenant dans le soleil. Là, quand vous regardez quelle heure est-il, et puis vous pouvez noter l'heure. Comme ça, vous savez, à cette heure-ci, le soleil se trouve chez moi exactement à cet endroit.
Oui. Alors évidemment, en France, comme on a un décalage avec l'heure d'été, le soleil n'est pas encore au zénith à midi.
Pas tout à fait, hein, ouais. Presque pas tout à fait.
Vous nous disiez tout à l'heure, Sarah, oui, comme les enfants marchent de moins en moins pour aller à l'école, ils savent de moins en moins s'orienter, notamment justement par rapport au soleil. Un message d'un auditeur, là, Boketsu, qui est à Kinshasa, en République démocratique du Congo, il disait, pour aller à l'école, moi je faisais le chemin à pied, d'abord 4 km. Quand il était en classe de 4e jusqu'en 6e primaire, donc c'était l'école primaire, aller-retour, hein, 4 km aller-retour, c'est beaucoup quand même quand on est enfant, et 9 km dans le secondaire aller-retour. Et bien voilà qui donne déjà des notions, hein, de l'est, de l'ouest, de l'heure qu'il est, etc.
Tout à fait. Et puis voilà, je crois qu'il s'oriente vraiment avec les points qu'on voit dehors. Hein.
Alors les enfants, pour aller à l'école à pied, évidemment, n'ont pas de boussole, parce qu'on leur a montré le chemin, mais avec vous, on va construire une boussole.
C'est ça. Alors ça, c'est pour les 8-10 ans maintenant. Les 6-7 ans, je crois que vous avez assez de travail avec ce dessin de où le soleil se lève, où il se couche. Vous pouvez vous y mettre tout de suite.
Et on attend les dessins postés sur WhatsApp, hein, surtout.
Ah oui, bien sûr. Hein. On aimerait bien les voir,
avec,
comme toujours.
Et n'oubliez pas de bien inscrire le nord, le sud, l'ouest et l'est sur le dessin. Sinon, il n'est pas valable. 33-1.
Et puis donc, pour les 8-10 ans, vous pouvez même vous aider des points cardinaux et d'une boussole pour jouer à cherche et trouve dehors. La boussole, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil très ancien de navigation, hein, qui était utilisé dans les temps pour trouver les 4 points cardinaux, mais qu'on connaît maintenant, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et normalement, mais la boussole se compose de 2 éléments. On a besoin d'une aiguille aimantée, en bout de métal, hein, qui s'aligne avec le champ magnétique de la Terre et qui pointe vers le nord. Et si jamais vous êtes perdu, hein, vous pouvez vous en fabriquer facilement une boussole avec ces outils dont on vous a dit de les chercher dans votre maison. Un petit morceau de métal, un aimant ou un couteau. Est-ce que vous avez tous vos matériaux devant vous, hein?
Alors, un morceau de métal.
Il faudra un bol avec de l'eau et puis une petite feuille.
Ça peut être un trombone, un petit morceau de métal. Si on n'a pas d'aimant, ce n'est pas grave en fait. Hein, on va...
Non, en fait, oui, voilà, normalement, vous trouvez un couteau quand même dans la cuisine, hein, que vous pouvez utiliser. J'ai eu des témoignages des gens qui même ont utilisé leurs propres cheveux pour aimanter un bout de métal. Je ne sais pas si ça marche.
Alors, il faudrait faire une leçon, on demandera à Gervais Loembe, notre enseignant scientifique, de nous faire une leçon sur le champ magnétique de la Terre, parce que ça, ce sont des notions un petit peu compliquées. Mais en tout cas, là, on va vraiment, avec la pratique, avec vous, Sarah, on va comprendre comment on peut construire une boussole.
Ok, mais on commence avec notre bout de métal. D'abord, on doit en fait déplier notre petit morceau de métal pour qu'il soit tout droit. Pour moi, c'est facile, j'ai une aiguille, elle est déjà tout droit. Mais si vous avez un trombone, par exemple, il faut le déplier et le faire tout droit. Et si vous l'avez tout droit, il ne devrait pas être plus long que le bol, parce qu'on va le mettre dedans. Donc, eh ben, si jamais vous avez un très long trombone, allez vite chercher une assiette et mettez l'eau dans l'assiette pour que vous ayez un récipient qui est assez grand.
Donc, en gros, un petit morceau de métal de la taille d'une aiguille. Et qu'est-ce qu'on fait avec le couteau, Sarah ?
Ben maintenant, justement, on va aimanter notre aiguille ou notre bout de métal. Hein. Maintenant, on va le frictionner, notre métal, 15 à 20 fois, soit avec la lame du couteau ou avec l'aimant. Alors moi, normalement, je pose plutôt l'aimant sur mon pupitre et puis je fais passer mon aiguille sur l'aimant, 15 à 20 fois.
D'accord, donc on frotte.
Comme ça, il se charge.
On frotte le petit morceau de fil de fer contre le couteau. Hein.
Oui, tout à fait. L'aimant et le couteau, ils vont créer un champ magnétique, en fait, sur notre petit bout de métal.
Ça veut dire qu'on va le petit morceau de métal de fil de fer va devenir un aimant, finalement, d'une certaine manière.
On pourrait dire une sorte d'aimant, tout à fait. Donc, je crois maintenant, vous avez pu passer 20 fois. Maintenant, on va mettre la petite feuille dans le bol. Hein. Alors moi j'ai même une feuille de ficus et une feuille d'arbre, ça va aussi. Ouais. La feuille fait que notre petit bout de métal, il va pas couler tout de suite, hein. Il va poser dessus, c'est comme un petit bateau.
Donc on peut le faire aussi avec un bouchon en liège, quelque chose qui va rester un peu à la surface de l'eau.
Tout à fait. Ou en bouchon, si vous avez une bouteille en plastique, vous prenez le bouchon, lui, il va nager.
Ah,
et ça, ça fait une boussole qui tient un peu plus longtemps que mon petit bout de papier qui va quand même, après quelques heures, je crois, il va couler. Hein. Il ne va pas rester tout le temps sur l'eau. Donc maintenant, vous posez votre métal chargé sur la feuille. Et puis, il faut attendre jusqu'à ce que l'eau, elle devient vraiment toute calme. Si ça tourne, ça bouge, vous avez la bouger un petit peu, il faut attendre. Et si c'est tout calme, votre métal va vous indiquer le nord et le sud. Donc, une extrémité va montrer le nord et l'autre le sud. Donc, comment savoir laquelle indique quelle direction? Vous avez appris avant, hein, si vous avez observé le soleil, ben, il se lève à l'est, il se trouve au sud à midi et se couche à l'ouest. Donc là où est le soleil à midi, ben, ça c'est le sud et l'autre direction, ça serait le nord.
Ah oui. Donc ça veut dire que le petit morceau de fil de fer sert exactement comme dans la boussole, l'aiguille qui indique le nord et le sud.
C'est ça, exactement. Et puis après, bon, ça ne va pas rester un aimant pour toute sa vie. Il faut de temps en temps recharger votre métal, et bien, de nouveau le passer 20 fois sur votre aimant ou sur votre couteau pour qu'il a de nouveau, qu'il a de nouveau un champ magnétique et qu'il peut s'aligner avec le champ magnétique de la Terre.
Ah oui, on peut donc fabriquer une boussole assez facilement. Je crois qu'on peut aussi fabriquer une boussole avec une montre, pas les montres numériques, hein, mais les montres
c'est
avec
ça,
des aiguilles.
C'est ça, mais les vieilles montres, comme mes filles encore, quand ils étaient jeunes, ils ont appris à lire la montre. C'est les montres analogiques, eh bien, où vous voyez en fait les chiffres, et il y a deux aiguilles qui tournent. Hein. Si vous avez une montre comme ça, c'est encore plus facile. Il faut d'ailleurs même voir le soleil. Alors, ce qu'on peut faire, c'est juste regarder le soleil. La petite aiguille de la montre, alors celle qui montre l'heure, devrait pointer sur le soleil. Je le fais avec ma montre que j'ai au bras, là, elle pointe sur le soleil. Et à l'heure d'été, le sud se trouve entre la petite aiguille et une heure. Donc vous regardez comme la part du gâteau que ça fait, la petite aiguille, une heure, et puis vous partagez cette part de gâteau en deux, et puis là est plus ou moins exactement le sud.
Sarah, c'est passionnant, mais il nous reste 3 minutes maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on garde de tout ce que vous avez prévu
Tout ce qu'on a prévu, donc bien sûr, on a en fait cette boussole. Hein, vous pouvez l'utiliser pour désigner des directions spatiales et surtout, après les plus âgés, hein, dans la nature ou dedans, chercher un élément intéressant, voire cacher un trésor pour votre frère, votre sœur, vos parents. En partant de votre boussole, écrivez le chemin pour trouver l'élément intéressant. Hein. Sur une feuille, vous n'allez pas que décrire, vous allez écrire. Et puis, vous allez mesurer avec des pas et des directions spatiales. Alors, je fais un exemple dans mon jardin. Pour mes filles, par exemple, vous posez la boussole dehors, par terre, sur la terrasse. De la boussole, marche 10 pas en direction nord, par exemple. Hein. Après le buisson, marche 15 pas direction nord-ouest, puis 5 pas direction nord, après la pierre, encore 20 pas direction nord-est. Qu'est-ce que tu vois? Et puis là, il y a quelque chose de grand, hein, peut-être un arbre, un grand poteau, une petite maison qu'on va trouver. Donc, vous faites un peu le même exercice, cherche et trouve, mais plus compliqué en utilisant les directions spatiales et puis vos pas. Hein.
Est-ce que ça, on peut l'utiliser, on peut faire ce jeu avec la boussole qu'on a fabriquée, avec le bol d'eau, évidemment sans renverser l'eau? C'est utilisable ou pas, ça?
Alors, bien sûr. Après, il ne faut pas transporter cette boussole. Hein. Ça, c'est important. Vous allez la poser dehors, mais moi, sur la terrasse, sur la table. Il faut que l'eau se calme, que cette aiguille, elle indique bien la direction.
C'est ça. Donc, on a bien visualisé où étaient les points cardinaux.
Ça,
et
il
ensuite,
faut bien visualiser où sont les quatre
points cardinaux.
Et puis après, vous pouvez donner des indications. Voilà.
Formidable. Merci beaucoup, Sarah Vauquier. On va vous retrouver demain. Alors, non pas à l'Est ou à l'Ouest, mais à 10h10 en temps universel. On dit aussi l'heure en GMT, hein, c'est Green Mean Time, c'est l'heure moyenne du méridien de Greenwich et c'est utilisé comme heure standard. Alors les voisins qui sont à Dakar savent qu'ils sont en temps universel. Par exemple, à Kinshasa, ils sont à temps universel plus une heure, donc ça sera 11h10 pour eux, par exemple. Et bien sûr, je redonne le numéro de notre compte WhatsApp, 33 1 84 22 71 71. Postez vos plans, postez vos dessins avec les quatre points cardinaux. Et demain, quel programme, Sarah ? Allô, allô,
mathématiques, ça. On va ranger.
On va ranger. Bon,
Mais je crois que ça va vous motiver quand même un peu. On va ranger. Et vous avez besoin de toujours la feuille, le crayon, la gomme, et puis aussi des petits objets que vous pouvez tenir dans votre main, parce qu'avec ces objets, on va se lancer d'abord dans un petit jeu très connu chez nous entre enfants.
Et 10 petits objets qui doivent être tous différents ou ça peut être les mêmes? Ça peut être 10 grains
de maïs. Vous avez plus de chances de gagner si vous prenez des objets très différents.
Ah, d'accord, très bien. 10 petits objets qui tiennent dans le creux de votre main, une feuille, un crayon, une gomme, c'est bien noté. Merci, très bonne journée, Sarah. Dans quelques instants, retrouvez Loïse Auria pour l'histoire du chien et du chimpanzé. Et puis vous apprendrez aussi, d'ailleurs, avec cette histoire, pourquoi ils sont devenus ennemis, enfin en imagination. Mais tout de suite, c'est R&P, YBN, Cordae et Anderson .Paak.
One of y'all niggas gon' be fuckin' with me. I got two bad bitches gon' be rubbin' my feet. I got three young niggas down the bus at the heat. And all y'all ain't got nothing to do. Now one of y'all niggas gon' be fuckin' with me. I got two bad bitches gon' be rubbin' my feet. I got three young niggas down the bus at the heat. And all y'all ain't got nothing to do.
Okay, put your fucking hands up, this the fucking anthem. Smiling cause I'm young, rich, black, and I'm handsome. Not to mention wealthy, ass on a healthy young millionaire, what the fuck can you tell me? Smell me, nigga, that's Chanel cologne. I'm in Europe with the tourists with no cell, your phone.
Like, ooh, sound like rich nigga problems. I hit a bad bitch with a fist full of condoms. In the randomness of risky menages, like get the head right, she can get what she want. If it spits, then flaunt it. My drip like a faucet. She told me she was pregnant, I ain't even take the motherfucking dick out my pocket, yeah.
The opposite, she want me to fly her, so I cop the jet. Must be thinking I'm a one-way ticket on a runway, dripping in my feng shui, sipping on a Sunday.
One of y'all niggas gonna be fucking with me. I got two bad bitches gonna be rubbing my feet. I got three young niggas down the bus at the heat. And all y'all ain't got nothing to do. Ooh, not one of y'all niggas gonna be fucking with me. I got two bad bitches gonna be rubbing my feet. I got three young niggas down the bus at the heat. And all y'all ain't got nothing to me.
I bought a Montclair coat for the times where it broke.
I'ma wear it in the summer on LeBron James boat.
Front row?
Duh, bro.
We don't sit on those bleeds.
Ain't your pockets obese?
They won't fit in those seats.
And we like a co-team.
Nigga Shaq and Kobe.
Like back in 03.
I was only like 6.
I was like 16.
But I can give a 16.
I can make a bitch scream.
That's a bit extreme.
I got a thick ball, bitch. I call her Miss Clean. My drip frosty like Halls and Listerine. Oh, all stars, you hardly 6 string.
Yeah, I had to ball hard to harvest these dreams.
Swear to yeah, me too.
No Harvey Weinstein. The coupe was lime green. My wrist was blinding.
We party in South Beach. Ferraris and blue cheese.
Fuck does that even
nigga,
mean?
Nigga, just let the hook sing. One of y'all niggas gonna be fucking with me. I got two bad bitches gonna be rubbing my feet. I got three young niggas down the bus at the heat. And all y'all ain't got nothing to do. Not one of y'all.
L'école à la radio, vous êtes bien sur RFI, 7 milliards de voisins. Et voici maintenant venu le temps de l'histoire. Le chien et le chimpanzé, c'est une histoire écrite par François et Cindy dans la collection Contes des 80 aux éditions L'Harmattan. Et bien sûr avec la voix d'Héloïse Auria.
Je m'appelle Tina. Je vais inventer une histoire.
Il était une fois...
Le chien et le chimpanzé. Un conte de François et Cindy. Collection Contes des 80 aux éditions L'Harmattan. Autrefois, dans un royaume très prospère, vivait une très belle princesse qui voulait se marier. Le chien apprit cette nouvelle et partit de son village pour demander sa main. En cours de route, il rencontra le chimpanzé qui se rendait dans le même royaume pour demander lui aussi la princesse en mariage. La route était longue. Jour après jour, ils se racontaient des histoires, mangeaient ensemble, buvaient ensemble, et petit à petit, ils devinrent amis. Arrivés au palais de la princesse, on les logea dans le même appartement. Pour renforcer leur amitié, les deux amis se confièrent leurs secrets. Le chien avoua au chimpanzé son irrésistible attirance pour les os. Le chimpanzé, en montrant les fougères qui cachaient son derrière, dit au chien sa peur de laisser voir sa nudité. Tout le monde attendait le jour où serait dévoilé le nom de l'heureux élu qui épouserait la princesse. La veille, on organisa au palais une grande fête à laquelle tous les candidats furent conviés. Au cours du repas, le chimpanzé prit un os et le jeta au centre de la salle. Le chien vit l'os, se leva, mais resta immobile. Il se rassit et se remit à manger. Quelques minutes plus tard, le chimpanzé jeta un os plus long que le premier. Le chien vit l'os, se leva, mais resta immobile. Il se rassit et se remit à manger. Le chimpanzé jeta alors un troisième os, puis un quatrième. Alors, n'y tenant plus, le chien se leva et bondit sur les os au centre de la grande salle royale. Il se mit à les ronger bruyamment. Tous les invités et la princesse éclatèrent de rire. Le chien, honteux, quitta la salle royale en courant. Le chien se coucha sans attendre le chimpanzé. Il s'endormit en rêvant de sa vengeance. Au petit matin, pendant que le chimpanzé dormait encore, le chien prit les fougères du chimpanzé et les jeta au feu. Le chien sortit et dit aux habitants du royaume que le chimpanzé souhaitait s'adresser à eux dans la matinée. Toute la population se réunit sur la place. Tous attendaient avec impatience le discours de celui qui serait peut-être le mari de la princesse. Pendant ce temps, le chimpanzé s'était réveillé. Quand il s'aperçut de la disparition de son pagne de fougère, il décida de partir en forêt pour en cueillir d'autres. Dès qu'il sortit, le chimpanzé, tout nu, fut accueilli par les rires moqueurs de la foule. Honteux, il prit la fuite et se réfugia dans la forêt. Il y est encore. C'est depuis ce jour que le chien et le chimpanzé sont devenus des ennemis.
Mise en onde, Romain Dubrac, avec la voix d'Héloïse Auria, que bien sûr vous pouvez retrouver sur notre compte Instagram. Rien de scientifique dans cette histoire de mésentente chien-chimpanzé, mais dans quelques instants, on va vous raconter une autre histoire très historique cette fois.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Et nous donnons la parole à Sylvia Serbin. Chaque semaine, une femme, un parcours mal connu de l'histoire du continent africain. C'est avec vous. Bonjour Sylvia Serbin.
Bonjour Emmanuel et à tous les auditeurs.
Alors aujourd'hui, un immense saut dans l'histoire. Nous voilà au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, sur le continent africain, c'est-à-dire il y a près de 800 ans. L'histoire de Sogolon Kedjou, la bossue, pas connue, je le disais, mais c'est la mère du très célèbre fondateur de l'Empire du Mali.
Tout à fait. Ce n'est pas une guerrière ni une reine, mais une simple mère. Et quelle mère ! Alors, elle était rejetée pour son physique et elle a donné un héros à l'Afrique, comme vous avez dit, Soundiata Keïta, fondateur de l'Empire Mandingue. Et la vie persécutée de Sogolon Kedjou, une maman dévouée et courageuse, nous enseigne que les femmes les plus humbles peuvent aussi accoucher de grands hommes.
Alors, on est au début du XIIIe siècle. Le Mandingue, c'était un petit royaume dans l'actuel Mali.
Oui, exactement, dans l'actuel Mali. Et ce petit royaume était réputé pour ses mines d'or et aussi pour la beauté de celui qui le dirigeait, le roi Narimagan Keïta. Et un jour, son devin lui annonce qu'il rencontrera une bossue particulièrement laide, mais qu'il devrait la prendre pour épouse, car, annonça-t-il, ajouta-t-il, cette fille sera la mère de celui qui rendra le nom de ton royaume immortel à jamais. Alors, il y a toute une histoire sur la façon dont Sogolon Kedjou se retrouve par hasard en présence du roi, quelques temps plus tard, et lorsqu'il aperçut ses yeux globuleux, sa démarche disgracieuse et cette bosse qui lui voûtait le dos, le roi détourna le regard. Mais les paroles de son devin lui revinrent en mémoire et malgré son dégoût, Narémagan se résolut à l'épouser en dépit de la colère de sa première femme et de l'étonnement de ses sujets face à une décision aussi étrange.
On a vraiment l'impression qu'on est dans un conte, hein, Sylvia Serbin. Sogolon donc va mettre au monde un fils et qui, pas de chance, sera infirme lui aussi.
Oui, alors infirme au grand désespoir de son père qui ne voyait pas comment un tel être pourrait lui succéder. À 3 ans, Sundiata se traînait encore à 4 pattes malgré tous les soins de sa pauvre mère pour lui insuffler un peu de force. Et la coépouse, Sassouma Bérété, qui se réjouissait, elle dont le vigoureux adolescent de 15 ans se préparait déjà pour le trône.
Eh oui, oui. Alors le roi, lui, par contre, n'a pas vu tellement grandir son fils,
Sundiata. Il va mourir précocement sans avoir vu se réaliser la prophétie de son devin. Et la première épouse va aussitôt faire introniser son fils par le conseil des anciens, bien que Sundiata avait été officiellement désignée par son père pour lui succéder. Alors, commence pour Sogolon et ses 3 enfants, parce qu'elle a eu 2 filles après, une vie de brimade, reléguée dans une vieille case à l'arrière-cour du palais. La femme buffle, comme on l'appelait, fut livrée à la méchanceté des badauds qui venaient se moquer du jeune garçon qui ne parlait ni ne marchait et réagissait aux moqueries par des grognements incompréhensibles.
Mmh. Ça veut dire qu'à ce stade de l'histoire, on se dit qu'il faut un miracle pour que le fils de Sogolon prenne la succession de son père et devienne le héros qu'il est devenu, fondateur de l'Empire mandingue.
Effectivement, un miracle va s'accomplir. Alors après une nouvelle humiliation de la coépouse envers sa mère en larmes, Sundiata parle pour la première fois. Il devait avoir 10 années et articulant avec difficulté, il dit à Sogolon « Tu as beaucoup souffert à cause de moi, mais console-toi ». Aujourd'hui, je marcherai. Alors, on lui apporte une lourde canne en fer. Les cases se sont vidées en un éclair pour que chacun assiste au spectacle. Le griot de son père, qui se trouvait là, entonne un chant d'exhortation. « Lève-toi, jeune lion, rugis, et que la brousse sache qu'elle a désormais un maître. » Alors, ruisselant de sueur, Sundiata s'arc-boute sur la canne. Il bande les muscles de son bras. Et malgré la souffrance qui se lisait sur son visage, il se relèvera chaque fois que ses jambes glissent. Puis soudain, ses genoux vont quitter le sol et d'une démarche incertaine, il s'ébranlera comme un automate jusqu'au bord d'une clairière proche, suivi par une bonne centaine de spectateurs ébahis.
C'est quoi l'hypothèse, en fait, pour que ce jeune garçon se mette tout d'un coup à marcher? Parce que c'est une histoire qui a été quand même historiquement vérifiée.
Oui, on ne pouvait pas se contenter de ce merveilleux seulement. Donc certains chercheurs se sont penchés donc sur cet extraordinaire dénouement et on estime que le jeune prince aurait pu être atteint d'une forme atténuée de poliomyélite dans sa petite enfance. Affaibli par son extrême dénuement et le manque de soins, il n'avait pu faire usage de ses jambes. Mais en grandissant, il avait inconsciemment pratiqué une sorte d'auto-rééducation qui lui avait progressivement ramené sa mobilité. Alors le récit de cet exploit va provoquer un retournement de situation et Sundiata deviendra un véritable héros aux yeux de l'opinion. Le courage de Sogolon, qui n'avait jamais désespéré de l'état de son fils, sera célébré partout et on se met soudainement à la traiter avec respect. Évidemment, Sassouma Bérété, furieuse, va commander toutes sortes de poisons pour se débarrasser d'eux.
L'autre coépouse.
Voilà, l'autre coépouse qui avait un caractère infernal. Et Sogolon décidera alors de quitter clandestinement le royaume pour mettre les siens hors de danger, non sans avoir dit à son fils « Un jour, tu reviendras au Mandingue, car c'est là que s'accomplira ta destinée. »
C'est ça, elle ne lâche jamais, effectivement. Alors, ils vont partir vers le nord, où ils vont être accueillis dans un autre royaume ?
Voilà, donc leur exil, leur voyage même va durer 7 années et ils seront accueillis dans la région de Ségou au Mali. Et le roi de cette région, le roi de Nema, qui n'avait pas eu d'enfant, va se prendre d'affection pour Soundiata et mettre la famille sous sa protection. Jouissant enfin d'une vie tranquille sur cette terre d'asile, Sogolon, qui était malade, affaibli par le poids des misères endurées et de sa bosse qui la faisait souffrir, eut le bonheur de voir son fils devenir un brillant guerrier et le plus proche conseiller du roi de Nema. Alors les années passant, évidemment, le sort va se retourner contre le Mandingue qui va tomber sous la domination d'un nouveau conquérant, Soumaoro Kanté, le roi du Soso, dans l'actuelle région de Koulikoro, toujours au Mali. Alors le conseil des anciens réfugiés dans la clandestinité envoie des émissaires à la recherche de Soundiata, dont la renommée était parvenue jusqu'à eux, afin qu'ils viennent délivrer le berceau de son père.
Oui.
Voilà. Et... mais Soundiata hésitait à laisser sa mère, alitée depuis plusieurs jours, pour répondre à l'appel du Mandingue. Alors elle l'exhorte à accomplir son devoir, l'encourageant par ces mots: « Sur toutes les terres où pousse le karité, Dieu assoira ton autorité. » Et le lendemain, Sogolon avait quitté ce monde. Alors Soundiata va faire alliance avec des chefferies voisines. Il lève une impressionnante armée qui écrase le roi du Soso à Kirina en 1235, donc on connaît la date. Et après avoir annexé les terres du vaincu, fédéré les cités qui avaient combattu à ses côtés, le fils de la femme Buffle, hein, comme on ne l'appellera plus d'ailleurs, va faire du petit royaume hérité de son père un puissant empire englobant toute la savane du Niger jusqu'au Sénégal.
Ouais, Sogolon Kedjou, la bossue ou la femme Buffle, c'est effectivement, ça résume bien tout ce qu'elle a pu endurer et malgré tout faire naître et faire grandir un héros finalement.
Exactement, ça montre que d'un enfant sans atout et départ, faible, infirme, à force d'amour, de soins et de confiance en cet enfant, on peut en faire un grand homme.
Est-ce qu'il n'y a pas justement, sur quoi on se base? Alors bien sûr, sur les réalisations guerrières, les batailles, etc., ça a été documenté, mais sur le fait qu'il était réellement handicapé à la base, l'histoire de la prophétie aussi, tu dois épouser cette femme bossue pour son père, hein, le roi, le père de Soundiata Keïta, qui évidemment, naturellement, aurait dû être assez, disons, révulsé à l'idée d'épouser cette femme laide. Est-ce que ça, il n'y a pas une part de mythe dans tout ça, Sylvia Serba?
Alors, il y a plusieurs façons effectivement de transmettre l'histoire. On peut faire de façon académique, aligner des faits, des chiffres, des contextes. Et puis, on peut y rajouter des sentiments, des messages cachés, du merveilleux, comme le font les traditions orales qui aiment bien sublimer les qualités ou les efforts du héros. Et donc, c'est pour ça que, outre les informations précises sur des dates, sur des contextes, j'ai voulu transmettre cette histoire telle que je l'avais reçue, comme les anciens nous la racontaient. Et donc, rien n'est négligé. Il y a toute cette partie de mystère. Et les traditions orales, c'est pour ça que le travail des historiens est souvent difficile pour essayer de dégager une ligne directrice.
Ce qui est important, c'est de comprendre que les gens croyaient dans ces traditions et ça, c'est effectivement la force quand même du mythe. Merci beaucoup Sylvia Serbin. Sogolon Kedjou est à retrouver, comme beaucoup d'autres femmes d'ailleurs, dans votre livre « Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire » et c'est publié aux éditions Médune et Terre. Merci à vous, très bonne journée Sylvia.
Au revoir.
Les voisins, les voisines, on se retrouve demain à 10h10, temps universel, avec l'enseignante Sarah et la chronique des entreprises de Didier Acouetté.